Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Un livre qui a été écrit par Jean-François Perret. Jean-François Perret, moi, je le connais depuis 1987. À l'époque, j'arrivais à Vierzon pour prendre la direction d'un centre culturel. Et lui était journaliste au Berry Républicain. Et quand on s'occupe d'un centre culturel, on a forcément des contacts avec les journalistes, parce que ce sont des gens très utiles, d'abord pour faire savoir ce qui se passe, mais ensuite pour mettre dans le journal ce dont ils ont pensé de ce qu'on a présenté. Jean-François, on s'est suivi pendant 3 ans, les 3 ans que j'étais à Vierzon. Et puis, moi, je suis arrivé à Millau, lui est resté à Vierzon et puis est parti sous d'autres cieux exercer son métier. Et on s'est un peu beaucoup perdu de vue. Et j'ai appris récemment que ce monsieur publiait un bouquin que je n'ai pas lu. Je ne connais même pas le titre, figurez-vous, mais je vais vous laisser, oui, en sa compagnie, et nous allons découvrir ensemble de ce dont il s'agit. Jean-François ?
Bonjour Jean, ravi de t'entendre.
Ah, et moi donc, depuis le temps. Alors, dis donc, c'est vrai que ça fait un bail hein, qu'on ne s'est pas vu et que moi, je n'avais pas de tes nouvelles, en tout cas.
Eh oui, tu m'avais laissé alors que j'étais en terre berrichonne.
Eh oui.
Toi, parti pour Millau, et moi, quelques années plus tard, qui ai quitté le Berry pour rejoindre la Drôme, puis l'Ardèche, puisque j'ai travaillé ensuite pendant 17 ans pour le Dauphiné libéré en région Rhône-Alpes. Et voilà, c'est quand même grâce au poste que j'ai décroché à Privas, en Ardèche, que j'ai eu la chance d'être là au bon moment, c'est-à-dire au moment de la découverte de la grotte Chauvet.
Ah, t'es tombé dans la préhistoire ?
Eh oui, mais j'étais déjà tombé depuis petit dans la préhistoire.
Ah bah écoute...
C'est-à-dire que à 9 ans, j'avais eu un prix scolaire qui s'appelait « La guerre du feu » de Rosny Henné.
Eh oui.
Et que j'avais dévoré. Et ce livre m'a tellement marqué, d'ailleurs, que je l'ai toujours dans ma bibliothèque, il m'a suivi. Il faisait partie du voyage chaque fois que je déménageais.
Et donc c'est grâce à la grotte Chauvet que tu as replongé donc, dans la préhistoire. Et le bouquin que tu sors, alors c'est de la préhistoire ?
Oui, c'est un roman qui est basé effectivement sur la préhistoire. Je vais en dire quelques mots, mais évidemment sans dévoiler ni la trame ni la chute.
Bien sûr.
Hein, c'est tout simplement un jeune homme passionné de préhistoire. Jeune homme, il est ado quand ça lui arrive. Il quitte la maison familiale un soir et il va se réfugier dans une grotte. Et il dit au cours du repas familial, ce soir je serai chaman. Voilà, et puis personne ne l'entend dans le brouhaha de la discussion. Et le soir, il met sa menace, si on peut parler de menace, à exécution. Et donc il part se réfugier dans une grotte. Et voilà.
Et donc, je suppose, puisque tu m'as dit la grotte Chauvet, que tu n'as pas lancé ça au hasard, et que ça a quand même un rapport.
Oui, bien sûr. Le roman a un rapport direct avec la grotte Chauvet. Le roman s'intitule « La faille du temps ». Donc, c'est une histoire un peu fantastique de quelqu'un qui traverse le temps.
Mais alors attends, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai vraiment une question qui me saute aux yeux, j'allais dire. Moi, je t'ai connu journaliste.
Je suis toujours journaliste. Oh. J'ai changé de région. Je ne suis plus en Rhône-Alpes depuis 3 ans et demi. Je me suis rapproché de ma famille. Je suis en Bourgogne et je travaille au Journal du Centre qui fait partie du groupe Centre France.
D'accord. Mais moi, ma question, parce que ça me paraît assez extraordinaire. Je sais que les journalistes sont des gens qui écrivent, par définition, mais pour moi, il y a une grosse différence entre l'écriture journalistique et l'écriture romanesque. Surtout que je ne savais pas que tu avais des velléités d'écrivain. D'écrivain romanesque, je veux dire. Comment tu as passé le pas ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre la pratique d'écriture journalistique et puis écrire pour un livre, a fortiori un roman. Ça n'est pas mon métier, c'est un premier essai. Le pas n'est pas évident à franchir. On n'écrit pas du tout de la même façon. Bien sûr, là, en plus, il s'agit d'un roman, donc il y a une part d'imaginaire qui est très importante. Donc il faut savoir manier l'imaginaire et non plus se fier à des faits et à des renseignements que l'on collecte sur le terrain quand on est journaliste.
Ben oui, c'est exactement ça, moi, que j'avais derrière la tête en me posant cette question. C'est que c'est vraiment... Bon, c'est deux choses qui font appel à l'écriture. Mais c'est totalement différent. Ça a été dur.
Oui, très dur. D'autant que ce roman, je l'ai commencé il y a très longtemps. Je l'ai commencé un an après la découverte de la grotte Chauvet, c'est-à-dire en 1995, puisque la grotte a été découverte en décembre 1994. Et puis, parce que je n'avais plus beaucoup de temps, j'ai arrêté de 1997 à 2010, puisque j'ai repris l'écriture de ce livre en octobre 2010.
D'accord, il y a un an.
Et donc, il a fallu... revoir tout ce qui avait été écrit avant, me remettre dans le contexte, et puis reprendre l'histoire et surtout être suffisamment imaginatif pour faire rebondir cette histoire.
Et un livre, c'est pas tout de l'écrire, mais pour que les gens puissent le lire, il faut arriver à se faire publier. Et là, ça s'est passé comment, la recherche et la bonne trouve d'éditeur ?
Au cours d'une rencontre, j'ai des amis qui écrivent et qui, pour le coup, sont de vrais écrivains. Moi, je ne suis qu'un amateur. Au cours d'une discussion avec eux, donc, j'ai rencontré un éditeur assez sympathique et qui m'a encouragé à reprendre le travail inachevé et à le mener à son terme. Et le manuscrit à l'état brut lui a été confié. Il a trouvé l'histoire très sympathique et a décidé de la publier. Voilà.
D'accord. Donc,
c'est une maison d'édition qui se trouve dans la Nièvre et dont le nom est Flagrant Délit.
Mais on rappelle...
Comme le flagrant délit des faits divers, des apostrophes, E-L-I-E.
On rappellera tout ça à la fin, hein, quand même, que les auditeurs puissent se le procurer. Et alors, sur la difficulté justement de passer de l'écriture journalistique et effectivement relater les faits et le plus exactement possible, hein, à une œuvre d'imagination, je veux dire, est-ce que t'as pris une méthode d'écriture, je veux dire, est-ce que tu t'es écrit par saccade ou en attendant de trouver, j'allais dire, la bonne idée pour continuer, ou est-ce que ça s'est mis à couler ou, j'aime bien, moi, savoir.
Oui, j'ai écrit le récit en tenant compte du fil de l'histoire que j'avais prévu. Donc c'était une première écriture assez coulée, assez allongée. Et la deuxième relecture a été justement pour mettre en rythme le manuscrit, pour le rendre plus vivant, plus percutant. Et donc là, il fallait trancher dans certains passages, de façon à leur donner ce corps qui constitue le style d'un roman, c'est-à-dire assez dynamique pour que le lecteur accroche.
Ben oui. Et comment dire, je sais que ben, si tu es toujours journaliste, c'est quand même une vie très occupée. C'est un métier prenant, etc. Et comment t'as réussi à trouver le temps?
Évidemment, le temps, je le prends sur mes heures de loisirs et souvent sur mes heures de sommeil aussi. Mmh. Puisque j'ai aussi une vie de famille et donc il faut que je puisse faire l'équilibre. Donc c'est souvent effectivement sur les heures de sommeil, dès que j'ai un moment de libre, dès l'instant où je peux me concentrer dans un univers un peu calme, je m'y mets.
Et là tu es dans la dernière ligne droite, hein, c'est-à-dire que
le manuscrit est parti. Ouais. Chez l'éditeur, il a été mis en page dans la nuit, donc c'est un roman qui fera 170 pages.
D'accord. Et la question bête qui tue, et pourtant tu as l'habitude de voir tes phrases imprimées, est-ce que tu as le trac?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que au risque de me répéter, ça n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'écrire dans un journal sur des espaces qui me sont impartis. C'est un bel exercice, un exercice long et totalement différent. Donc, je me dis, est-ce que le style sera suffisamment percutant, dynamique pour que le lecteur accroche et y trouve son compte. Donc effectivement, j'ai une certaine appréhension.
Eh bien écoute, je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après.
Volontiers, Jean.
De 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me tranche à net le col et me fait effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plonge dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing haut, 10 grammes de potasse, disons-moi une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, pour nos télévisions, il n'y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité quand on repousse Erectus. Erectus, ça me va bien, moi, tête de chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines épincées, sur le vidame Titos, ou d'une prémolaire, sans peur que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Et le temps dès que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calébige aux têtes confins de lune. Et le temps dès que je vivais jadis dans une grotte, ils vendaient tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et j'avais pas de culotte, alors que j'habitais à Paris en banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais aux pierrotés. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant tout est sauté. C'était, voilà maintenant bien, 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées.
Alors, toi, tes hommes, ils sont pas fossiles à la manière de ceux de Reggiani, je suppose. Et en bon journaliste que tu es, je suppose aussi que ton roman reflète quand même les réalités des recherches des spécialistes tels que ceux de la Grotte Chauvet.
Absolument. Et même à travers ce roman, j'ai voulu faire passer quelques messages, notamment casser cette idée qu'on a tous ingurgité lorsqu'on était sur les bancs de la primaire il y a une trentaine d'années, même plus. Les instituts de l'époque nous disaient... les hommes préhistoriques, des rustres, totalement incultes, ben non, il faut casser cette image-là. Et d'ailleurs, la Grotte Chauvet a été en ce sens une vraie révolution, puisque on a vu que il y a 37 000 ans, les hommes étaient capables de faire des œuvres magistrales. Et c'est ça qui change le regard. Donc à travers mon roman, je fais comprendre que ce regard doit changer, que ce regard a déjà changé grâce aux recherches effectuées dans cette grotte ardéchoise et dans d'autres.
Mais comment tu as été au courant justement de ces recherches de la Grotte Chauvet, enfin je veux dire des détails? Par travail?
Parce que j'étais en poste en Ardèche, et qu'il y avait des campagnes scientifiques dans la grotte, donc il y en a deux par an, une au printemps et une en automne. J'avais systématiquement un rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe de recherche deux fois par an, et en particulier avec Jean-Claude, qui était à l'époque le directeur de cette équipe pluridisciplinaire. Et je faisais le bilan des différentes campagnes, ce qui fait que j'avais la chance de pouvoir communiquer sur toutes les découvertes lors des campagnes et les échanges, notamment avec Jean-Claude, étaient très riches parce que j'ai énormément appris sur la préhistoire. Oui, et mon but, c'était... je me disais que j'étais quand même un privilégié de pouvoir côtoyer les gens qui travaillaient dans la grotte. Mon but, c'était de rendre au lecteur cette chance que j'avais. Et donc, j'expliquais à nos lecteurs quelles étaient les découvertes effectuées lors des campagnes dans ces grottes.
Ce qui fait que tu es totalement au courant des découvertes qui ont été faites. Ah oui, oui, t'es effectivement un privilégié.
Dès qu'une peinture était découverte, j'en étais informé.
D'accord. Et tu les as vues, ces peintures?
Pardon?
Ces peintures, tu les as vues, toi?
Non. Alors, la Grotte Chauvet n'est pas ouverte au grand public, n'est pas ouverte aux journalistes. Elle le sera peut-être un jour pour les journalistes, mais en tout cas pas au grand public. Mais il y a aujourd'hui suffisamment de documents qui circulent. Euh, je, les reçois régulièrement et on peut faire aujourd'hui des visites virtuelles de la grotte.
Ah oui, c'est un des avantages de notre monde moderne, ça.
Voilà.
Et il y a... Enfin, je sais pas, moi, j'y connais strictement rien, hein, ni en préhistoire, ni en recherche sur la préhistoire. Mais est-ce qu'on la découverte de cette grotte a permis de faire des grandes découvertes qui remettent en question ce qu'on savait?
Oui. Et c'est justement là où la découverte de la grotte Jovin a été révolutionnaire. En termes d'évolution de l'art, il a longtemps été pensé que plus on se rapprochait de notre ère, et plus l'art était évolué. André Leroy-Gourhan, qui était un grand préhistorien, s'appuyait sur ce principe-là, l'évolution de l'art au fil des siècles, au fil des millénaires. Or, on s'est vite aperçu que l'art de Chauvet, bien qu'étant plus ancien que celui de Lascaux, puisque Chauvet, c'est de l'Aurignacien, que les plus vieilles peintures ont 37 000 ans, et que Lascaux est du Magdalénien aux environs de 17 000, ce qui fait quand même 20 000 ans de différence, eh bien l'art de Chauvet est plus évolué que celui de Lascaux. On s'aperçoit que dans la grotte Chauvet, l'homme a utilisé la perspective, l'estompe, des techniques artistiques qui sont très évoluées.
Et c'est attribué à quoi, ça?
Oui, alors, les scientifiques n'en sont qu'au stade de l'interprétation. Hein.
Bien sûr. Mais il y aurait eu, enfin je sais pas, dans les hypothèses possibles, moi qui viennent à l'esprit, c'est soit c'était deux peuples à différents degrés d'évolution, puisque le plus élaboré se situerait dans le plus lointain, ou alors il y a aussi la possibilité qu'il y ait eu une régression.
Ou autre option, deux écoles artistiques différentes.
Absolument, oui. Ouais.
C'est-à-dire une école artistique très figurative comme celle de Chauvet, puisque dans cette grotte ardéchoise, on voit notamment un superbe panneau des lions en chasse, où des félins sont représentés alors uniquement à la tête jusqu'à l'encolure. Il y a plusieurs têtes de lions qui sont mises en perspective qui présentent une vue quasiment 3D. Et juste à côté, un troupeau de bisons. Donc on imagine bien que là, c'est une chasse, que les lions sont prêts à partir à la traque de leur proie. C'est une vision très figurative, réaliste, pardon, excusez-moi, c'est plus du réalisme. Alors que à Lascaux, les animaux ont des profils là beaucoup plus figuratifs.
Ouais. Mais je sais pas, je te dis, moi, j'y connais strictement rien. Mais est-ce que, à travers, par exemple, ce qu'on peut découvrir dans la grotte Chauvet, ça a fait aussi avancer, j'allais dire, ce qu'on a découvert sur les différents modes de vie, enfin, ou je sais pas. Parce que moi, je sais pas, j'y connais rien du tout. Et quand j'étais petit, on m'apprenait que les grottes, c'était là où ils vivaient. Et puis, après, on m'a dit que c'était des lieux qu'on supposait religieux, etc., etc.
Oui, effectivement. Alors, c'est pareil, il y a une image d'Épinal à casser. C'est l'homme n'a jamais vécu dans les grottes. Il vivait à l'entrée des grottes, sous des abris, sous des porches. Effectivement, les grottes, donc la partie dans l'obscurité, était réservé aux artistes peintres. Et sans doute, mais là ce sont des théories, sans doute à des cérémonies chamaniques. Et si l'homme est allé si loin dans les grottes pour peindre de telles peintures comme à Chauvet, c'est qu'il y avait sans doute quelque chose de magique. Déjà, la magie, c'est lorsque une nouvelle génération plus jeune que celle que les artistes ont connue, une nouvelle génération entre dans la grotte, éclairée avec des lampes à graisse, et se place devant les fresques. La lueur, le reflet de la lueur sur les fresques fait bouger les animaux. Et là, il y a de la magie.
Ouais, c'était le cinéma de l'époque.
C'est un vrai univers magique.
Ouais, non, mais je te dis, c'était le cinéma de l'époque, quoi, en
voilà,
quelque
exactement.
Sorte.
Voilà, exactement. Il y a d'ailleurs un chercheur qui vient de sortir un livre sur cette théorie qui me semble fondée. Cro-Magnon était sans doute le papa de la BD et du cinéma. Il y a sur les parois des animaux qui ont plusieurs pattes avant, plusieurs pattes arrière. Et lorsqu'on décompose ces dessins et qu'on les projette très rapidement, les uns sous les autres, les uns à la suite des autres, on s'aperçoit que ces pattes se mettent en mouvement. Ça, c'est du dessin animé. Et donc, Walt Disney, finalement, n'aurait rien inventé.
Du dessin animé, 37 000 avant nous.
Oui. Ouais. Dans la grotte Chauvet, donc c'est la période la plus éloignée. Les peintures de Chauvet sont les plus anciennes connues de l'humanité. Il y a un bison avec plusieurs pattes. Et on peut se dire que ça n'est pas un dessin qui a été rectifié, ça n'est pas ce qu'on appelle en termes artistiques un repentir, c'est-à-dire que l'artiste n'a pas dessiné une première patte et puis ensuite s'est dit non, je vais rectifier, je me suis trompé, je me repens d'avoir fait ça. Non, c'était bien pour décomposer le mouvement de l'animal.
Oui, ça doit être passionnant, en fait, cet univers.
Oui. Et donc, ce préhistorien qui s'appelle Marc Azéma vient de sortir un livre passionnant qui s'appelle « La préhistoire du cinéma ». Et sa théorie, c'est effectivement celle-là, Cro-Magnon, et sans doute le père, le papa du cinéma et de la bande dessinée.
Eh bien, écoute, on va se refaire une petite pause musicale et puis après, on reparlera de plus spécialement de ton livre.
Entendu, à tout de suite.
Pas ma mère, je sais que ce sera dur, mais c'est dans ma nature. Et puis j'ai 17 ans. J'ai un bon protecteur, mon animal totem, le grand lion des cavernes. Et puis j'ai mon talisman. Quand je reviendrai, s'il faut que je revienne, je ne serai plus le même, je serai un peu plus grand. Car j'aurais tenté ma chance. C'est là que la vie commence, tu l'as dit si souvent. J'aurais été voir de l'autre côté de la rive, vu comment les autres vivent, s'ils sont au courant. Que nous, on existe, qu'on caresse les loups, qu'ils chassent même avec nous, de temps temps en temps. Et je veux savoir comment il taille la pierre, où passe-t-il l'hiver et le printemps. Et puis je veux leur dire, avec les mots de leur langage, que j'ai le goût du voyage et que j'aime les gens. Comment tremper dans l'urine, il devient blanc. J'espère faire l'amour avec beaucoup de femmes. Je goûterai leur charme et les sentiments. Et puis je repartirai toujours un peu plus loin, chercher d'autres humains, d'autres campements. Ne pleure pas ma mère, sera dur, c'est dans ma nature. Et puis j'ai 17 ans.
Ah bah écoute, j'ai essayé quand même. Bah oui, j'ai trouvé que c'était d'actualité.
Absolument. Et il y a une très belle image au départ de cette chanson. C'est le lion de caverne protecteur.
Mm-hmm. Et alors, pour en revenir à ton bouquin, donc il va sortir.
Il sortira le 22 novembre.
Oui.
Et il sera présenté officiellement à Nevers. Le 18 décembre, qui est la date anniversaire de la découverte de la grotte Chauvet.
Ah, c'est particulièrement bien choisi.
Absolument.
Et alors, justement, c'était en gros la question que j'allais te poser, que ma foi, c'est pas tout d'écrire un livre, c'est pas tout d'arriver à se faire éditer, mais après, il y a encore du boulot, quoi, parce que, bah, ma foi, il faut qu'il soit acheté. Donc, à part la sortie officielle, t'as prévu quelque chose, tu vas faire des signatures, tu vas faire quoi?
Oui, il y a une série de dédicaces qui sont déjà prévues dans plusieurs lieux. D'abord dans la Nièvre, et puis sans doute dans les mois qui vont suivre en Ardèche, dans la Drôme.
Ouais, oui.
L'Ardèche,
bah oui, ça,
le département qui s'impose tout naturellement, puisque la grotte Chauvet y est installée. Et il me semblait tout à fait logique d'aller dédicacer quelques exemplaires dans la commune de la grotte Chauvet, c'est-à-dire à Vallon-Pont-d'Arc.
Et une question bête, mais qui peut drôlement intéresser les auditeurs, c'est ton bouquin, il s'adresse à qui? Il s'adresse à des adultes? Il peut s'adresser à des ados? Est-ce qu'il peut s'adresser à des enfants? Enfin, je sais pas, moi.
Alors, c'est vrai que l'exercice n'était pas facile, mais j'ai souhaité m'adresser à toutes les tranches d'âge. Je l'ai fait lire à plusieurs personnes qui ont l'habitude de publier pour ces différentes tranches d'âge. Et effectivement, il apparaît que c'est le livre colle bien avec ce que peuvent attendre à la fois les enfants, les ados et les adultes. Donc matière de préhistoire.
C'est pas bête, hein, quand même, de toucher tous les publics. T'es drôlement finaud, toi. Et justement, tu me dis ça, mais c'est normalement c'est trois publics totalement différents. Donc, je suppose que au niveau de l'écriture, ça doit demander, comment dire, une attention particulière.
Une attention particulière, effectivement. À la fois pour ne pas choquer un jeune public, mais tout en rendant l'histoire pleine de rebondissements.
Mais oui, mais je veux dire, il y a en même temps, parce que moi, ce qui m'étonne, si tu veux, c'est que d'après ce que tu m'as dit, il y a quand même pas mal de choses scientifiques qui sont exposées aussi.
Alors,
donc il faut être simple en même temps.
Effectivement, il y a des passages qui sont vraiment réels, c'est-à-dire qui sont en phase avec la vraie préhistoire. Mais ces passages-là sont, tout en étant réels, sont romancés, c'est-à-dire qu'ils sont à la portée de tout le monde. Il y a un exercice, je me suis imposé un exercice de vulgarisation.
Mmh. Et est-ce que l'écriture journalistique et l'écriture romanesque sont deux choses totalement différentes? Néanmoins, est-ce que tu penses que le fait que tu aies écrit toute ta vie, finalement, même si c'était d'une manière différente, ça t'a aidé ou est-ce que au départ ça a été un handicap?
Au départ, c'était plutôt un handicap. Sortir du style d'écriture journalistique, quand on a plus de 30 ans de pratique, ça n'est pas évident. Il y a des automatismes, des réflexes qu'on acquiert au fil du temps et qu'il faut abandonner. Rien n'est facile. J'ai peiné, je l'avoue. Maintenant, le verdict, ce sont les lecteurs qui le rendront.
Ben oui. Donc, écoute, Jean-François, moi, on va voir, on pourrait peut-être, si tu es d'accord, essayer de se goupiller une signature vers chez nous un de ces jours aussi, non?
Oui, bien sûr.
Ça te dirait?
Oui, oui, tout à fait.
Bon, écoute, on va essayer de goupiller ça. Tu vas rappeler, avant qu'on se quitte, le titre, l'éditeur, etc.
Oui.
Allez, vas-y, lentement, que les gens aient le temps de noter.
Alors, le roman s'intitule « La faille du temps ». Il paraîtra aux éditions Flagrant Délit. Donc Flagrant au singulier, Délit, D'Elie. C'est une maison d'édition régionale qui est basée dans la Nièvre, à La Charité-sur-Loire.
T'auras bien un blog internet ou quelque chose de toute façon?
La maison d'édition a un blog internet.
D'accord. Eh bien, écoute, Jean-François, je te remercie.
Merci en tout cas de m'avoir consacré ce bon moment.
Je te souhaite plein de lecteurs. J'espère aussi que quand
j'espère
même...
J'espère aussi.
Non, mais moi, j'espère aussi que tu m'enverras ton bouquin.
Oui, absolument. Oui, tout à fait. C'est prévu.
Et puis, je te dis au revoir. Merci. Et
oui,
puis...
une dernière précision.
Oui.
C'est le préhistorien Jean-Claude qui a signé la préface.
Ah oui, comme quoi c'est sérieux de chez sérieux.
Voilà.
Eh bien, écoute, Jean-François, un grand merci. À bientôt, j'espère.
Merci, Jean. À bientôt.
Je dis
et
aussi...
restez à l'écoute sur Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique.
Je dis aussi un grand merci à Stéphane qui est derrière la vitre à toutouiller ses petits boutons. Et à vous, les auditeurs, je vous dis comme d'habitude, la prochaine fois, même endroit, même heure.
Au revoir, Jean.